Vous écoutez
RMC.
On nage dans le bonheur.
Comme on dit, les malheurs des autres font le bonheur des autres. Et...
Mais après, comme on dit, le bonheur des uns fait le malheur des autres.
À tout malheur, machin est bon, un truc comme ça.
À tout malheur, bonheur est bon.
Je suis sûr que c'est pas ça.
Jusqu'à minuit, l'after foot.
Gilbert Bribois.
Bonsoir à tous et bienvenue dans l'After qui est là en direct jusqu'à minuit comme tous les soirs de l'année. Bien sûr, l'After est sur RMC, l'After est sur After Foot TV. L'After est sur la chaîne YouTube de l'After Foot. On est partout, évidemment, dans l'After, première radio de France le soir, comme vous le savez. Et Kevin Diaz est là. Salut Kevin.
Salut à tous. Et il y a énormément de monde qui nous suivent sur l'After Foot TV maintenant. Vraiment, c'est énorme. Non, mais vraiment, c'est énorme. J'ai beaucoup de gens qui me disent que ils nous voient et qu'on est très beau sur After Foot TV.
Sur After Foot TV, c'est sur à peu près tous les. C'est sur Free, sur Orange, sur Bouygues.
Non, mais là où tu as été très fort, Gilbert, c'est que moi, dès que j'allume ma télé, ouais. Qui est une. Pour le coup, c'est une Samsung, mais je pense que.
Ah, là, c'est l'appli, la chaîne Fast,
en fait,
comme on dit.
En fait, dès que je l'allume, c'est sur After Foot TV. C'est trop bien.
C'est dans tes favoris, non?
Non, même pas. Ouais. En fait, si t'es sur le truc, donc la TV Samsung, ouais. Et bah directement, c'est After sur foot. ton fond d'écran, quoi. En gros, c'est
After Foot. Gilbert, il est trop fort.
Après, je vous avoue que c'est pas moi qui est intégré à la télé Samsung.
J'avoue que moi, j'avais jamais entendu parler de TV Samsung ou de TV connectée vraiment.
Enfin, on est aussi sur Molotov. On est partout. YouTube, évidemment.
Okay. Ouais, YouTube, ouais. Avant, je regardais sur YouTube.
C'est comme Ligue 1 Plus, c'est l'hyperdiffusion.
Ouais, c'est ça.
On est partout.
On est partout.
Voilà. On est même sur dans 15 pays africains.
Ah oui?
Ouais.
Et puis maintenant, à New York aussi. Beaucoup à New York maintenant, maintenant qu'on s'est fait connaître.
Ah ouais,
à New York.
À New York, on est en place.
À New York, là, Kevin et Max, à New York, c'est. Comment dirais-je?
Là, ouais,
c'est vrai qu'on nous doit.
Là, franchement, 3 semaines et demie à New York.
Propagande After Foot.
Honnêtement, je suis à moitié New York. Hein. Ouais. Dans tous les quartiers, j'ai un petit resto.
Tu sais qu'il a même failli ramener les sponsors pour son club.
Apparemment, mais alors on l'a plombé.
On n'a pas complètement abandonné. On va rappeler Mike.
T'es en égo?
On va rappeler Mike. D'ailleurs, puisqu'on en parle, le nouveau maillot des Lusitanos sort vendredi.
Oh.
Et je peux vous dire que c'est à suivre. Bah, toujours le même, Skita.
Faut que tu montes en gamme.
Non, il n'y a pas d'ailleurs.
C'est pas
une histoire de monter en gamme. Tu verras que ce maillot est très beau. Avec les 60 ans du club, donc créé en 1966. Donc là, on est en 2026. Ça fait 60 ans quand même pour un club comme nous. C'est beau. Et donc un maillot qui sera un petit peu avec des petits relents vintage d'un maillot des années 90-2000. Fait hommage notamment à la communauté portugaise et honnêtement ce sera un très beau maillot avec bien sûr le drapeau de la France et du Portugal
La création du maillot ou pas toi et ton style, est-ce que tu as un rapport?
C'est moi qui l'ai designé, donc j'ai un petit rapport avec. Tous les maillots du club depuis que je suis là.
Directeur sportif, il fait tout.
Il fait absolument tout. Ouais.
C'est moi qui l'ai designé.
Il fait les merguez, il design des maillots.
Quand je dis c'est moi, c'est bien sûr avec l'accord du président et du designer de l'équipementier, mais en effet, les idées, c'est moi qui les ai eues, mais j'adore.
Qui touche à tout, toi.
Mais vous faisiez pas ça quand vous étiez à l'école primaire, vous dessinez des maillots de foot?
Non, moi j'ai jamais été directeur sportif.
Mais t'as jamais dessiné des maillots de foot?
Moi j'avoue que j'ai fait ça pour le Media Football Club.
Ah bah bien sûr.
On est l'équipe la plus stylée
du football loisir, ça c'est clair. Du football loisir. C'est magnifique.
Ah,
c'est exceptionnel. Bon, après, vous aviez un bel équipementier aussi.
Très haut niveau.
Qui historiquement a fait peut-être partie des plus beaux maillots.
Tout à fait.
Voilà.
Bon, pour revenir à notre after, parce que là, on divague avec les délires de Kevin.
T'as même pas accueilli Max à cause de moi.
Non, non, bah, si, Maxime Chano,
bien sûr, Max. Salut à tous.
Mais dis-moi, tu sais qu'en fait, il y a un truc qui me fait mal au cœur pour Kevin. C'est que le vrai club, le club phare.
Ah non, Lusitanos, ça, je ne veux pas l'entendre.
Mais quoi, Thionville-Lusitanos, les mecs sont leaders de Ligue 3.
Non, mais attention.
C'est Thionville-Lusitanos.
Attention.
C'est le nom de leur club, excuse-moi.
Non, mais c'est un très beau club. D'ailleurs, ils nous ont reçus pour un match amical cette année.
Oh, vous avez fait le derby
c'était pas à Thionville, mais c'était juste à côté.
Le derby Lusitanos. Qui a gagné?
J'aime pas trop ce nom. On a fait match nul, mais très belle équipe. Club très sympa avec des dirigeants super.
Entraîné par Julien François.
Très bon entraîneur.
Et
ça m'étonne pas du tout qu'il soit premier au classement parce que franchement très belle équipe, très beau club. Mais juste pour en revenir sur déjà c'est un club qui n'a que quelques années d'existence parce que c'est une fusion.
On peut pas comparer
avec un club de 60 ans. Désolé mais je les respecte beaucoup, ils font du bon travail. Mais vous savez qu'il y a qu'un seul club en France qui peut s'appeler Lusitanos de quelque chose. C'est nous. Ça, c'est une marque déposée. Tu peux t'appeler ta ville et Lusitanos, mais tu ne pourras pas t'appeler Lusitanos Saint-Maur comme nous. Voilà.
Ok.
Ouais, en même temps.
Donc, j'ai envie de te dire, il n'y a qu'un seul Lusitanos.
Saint-Maur.
Et d'ailleurs, l'US Créteil maintenant s'appelle l'US Créteil uniquement. Depuis quelques mois.
Il a un collab sur le foot parisien.
Ouais. sur le football tout court.
Bon.
Belle ouverture.
Alors, ah oui, après cette longue divagation foot amateur, cette année, on vous prépare des choses, des petites surprises foot amateur. J'en dis pas plus.
Ah ben, il y a tous les gens du foot amateur.
J'en dis pas plus. Donc, cette année, l'After va aller voir le foot amateur, je vous le dis.
Ah, ben ça. Voilà, parce que le football amateur écoute l'After.
Exactement.
On nous l'a demandé, hein, c'est vrai. Ouais. Souvent qu'on m'arrête pour me le dire.
Alors, ce soir, l'événement, bien sûr, c'est la Ligue 1 qui reprend après-demain avec le match Marseille-Strasbourg. Bruno Genesio a donné une conférence de presse aujourd'hui, on l'entendra dans quelques instants, on donnera notre avis sur la situation de l'OM dans quelques minutes. Mais avant cela, les infos concernant le match PSG-Rennes qui a donc été inversé ce soir. La Ligue a communiqué il y a quelques minutes. Donc le match devait se jouer au Parc des Princes dimanche soir. Il se jouera à Rennes. Je vous donne toutes les infos dans quelques instants. Et je pense qu'on est parti pour un petit feuilleton polémique. Je vais vous expliquer pourquoi dans quelques minutes. Les dernières infos avant le match de Monaco demain, car Monaco joue demain, barrage aller de Conference League en Pologne. Et puis à 23h, gros débat à Mercato avec Fabrice Hawkins qui sera là. Toutes les infos du jour. Et puis un point sur les gros dossiers. Les gros dossiers en Ligue 1 encore en suspens, Fofana, Guiri, Hojbjerg, Boadi, enfin vous saurez absolument tout à l'heure et on pourra débattre évidemment club par club, sans oublier l'évolution du dossier Fédé FIFA. La Fédé va-t-elle soutenir ou pas Infantino? Philippe Diallo semble être un peu dans la tourmente ces dernières heures. On en parlera ensemble tout à l'heure avec Daniel Riolo parce qu'il suit ce dossier, il est passionné par ce dossier. Ouais. Et puis il y a les matchs ce soir, il y a un match en Espagne. La Liga a repris Atlético Malaga ce soir. Malaga qui est de retour en Liga, 0-0 à la mi-temps. Et puis les barrages de Ligue des Champions continuent, barrage aller. Alors là, ce soir, c'est les clubs champions, donc c'est les clubs des petits pays hein, qui s'affrontent. Mais c'est quand même intéressant parce que c'est dans l'absolu des clubs que nos équipes françaises peuvent rencontrer ensuite dans la phase de poule. Le Celtic mène 2-0 au club de Lask, le club de Linz en Autriche, 2-0 pour le Celtic. Qu'est-ce que j'ai encore? Bodo Glimt, qu'on connaît bien maintenant, mène 2-0 à Nimeg, chez Kevin Diaz, aux Pays-Bas. La défense de Nimeg, pour le but de Bodo Glimt, les mecs sont rentrés là-dedans, il n'y avait personne. Hein.
Pas de souci, mais
2-0 pour Bodo Glimt.
Si tu regardes le budget de Nijmegen, si tu me permets, de Nijmegen, de NEC, je peux te dire que c'est un petit club avec un petit budget. Donc s'ils sont là, c'est un peu une anomalie de ne pas voir surtout l'Ajax ou Feyenoord.
Voilà. Tadic titulaire.
Dusan Tadic?
T'en connais un autre?
Franchement, j'avais même pas vu qu'il avait signé là-bas, pour te dire la vérité. Bon.
En plus, on a le match devant les yeux. Je vous tiens informé, évidemment, quand les matchs seront terminés. Bon, alors, imbroglio PSG Rennes. Alors, pourquoi le match est inversé? Donc, en fait, tout ça a démarré hier. Le PSG, qui a quand même un jardinier très bien payé, hein, parce que Jonathan Calderwood, qui est arrivé en 2013. Rappelez-vous, en 2013, il y avait une des grandes annonces. Le PSG recrute un jardinier en Angleterre. Derrière, c'est vrai que le PSG avait une pelouse magnifique. C'était
plus belle pelouse de France pendant très longtemps.
Voilà, alors là c'était genre l'espèce de sanctuaire, tu pouvais pas y mettre un pied, un doigt, c'est plus le cas. Alors c'est peut-être encore le cas, mais enfin là je sais pas ce qu'il a foutu le jardinier, mais il a été battu par la canicule, ou les canicules, puisque le PSG explique que la pelouse est détériorée et qu'en fait à cause de la canicule il y a un champignon qui est apparu. Alors je vous avoue que je suis pas spécialiste jardinage, hein, donc je sais pas si vous êtes jardinier.
C'était le cas en Corse.
Et quoi, les champignons?
Pendant 3-4 mois, jusqu'au mois d'octobre, les terrains, que ce soit à Furiani ou à Ajaccio.
Oui, mais tu jouais?
Ah oui, on n'avait pas le choix, on n'avait pas de solution de rechange et de repli.
Donc là, en fait, l'histoire a démarré hier. Le PSG dit, bon, on a un problème, la pelouse, ça va pas. Qu'est-ce qu'on fait? Donc le PSG a commencé à chercher une solution de repli. Stade de France, impossible, il y a un concert. Jean Bouin, je sais pas pourquoi, mais enfin pas possible non plus. Et donc là, le PSG s'est tourné vers la Ligue et vers Rennes en disant bon, peut-être que la solution la plus sage, ce serait d'inverser. Alors évidemment, les Rennais, eux, un peu en panique parce que recevoir le PSG, bon, c'est la garantie d'une recette, c'est un événement quand tu reçois le PSG et ses stars, évidemment, dans n'importe quel club de France quand c'est le match à l'extérieur. Donc Rennes essaie de s'adapter, Rennes galère un peu, et au final ce soir on apprend que le match est bel et bien reporté. Mais ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que Rennes se dit attendez, ok, nous on sert finalement de terrain de repli, mais ça ne veut pas dire que le match retour Rennes-PSG, il faut qu'il soit à Paris. Donc les Rennais ce soir ils disent attendez, nous on veut bien recevoir, mais on reçoit aussi l'autre. Hein. Donc là, on est quand même sur le début d'une histoire. Ouais. Que va décider la Ligue? Est-ce que la Ligue va dire, face au PSG puissant et très influent, comme vous le savez, dans les instances, est-ce que la Ligue va dire, oui, c'est vrai, après tout, le Parc des Princes, le PSG n'a pas rempli son obligation et la pelouse n'était pas...
Non, mais la pelouse, elle est impraticable ou c'est juste le Paris Saint-Germain qui ne veut pas les mettre...
Sur Twitter, j'ai reçu des messages de gens qui m'ont dit « Moi, j'ai vu la pelouse, ok, elle a mieux, mais enfin, ça va. »
Dans ce cas-là, jouer.
Je sais pas, je... Mais là, non, mais la Ligue a appelé ce soir que c'était inversé.
Ouais, non, mais je comprends. Moi, je trouve que c'est un peu petit joueur de la part de Rennes.
Hein. C'est-à-dire
écoute, si.
Non, Rennes, on les met devant le fait accompli.
Non, mais bien sûr. Mais est-ce que t'as pas tout intérêt, en tout cas, pour la bonne entente des clubs, voilà, d'accepter le fait d'échanger le match? Écoute, tu reçois le match aller, puis tu te déplaces au match retour. Mais j'entends, mais c'est parce qu'évidemment, il y a une animosité entre le Paris Saint-Germain qui est tout puissant et.
Non, il y a deux choses, c'est pas une question d'animosité. Dans l'absolu, si tu échanges le match 2-3 mois avant, il n'y a pas de problème. Ouais. Même un mois avant. Maintenant, quand tu organises un match, c'est quand même un gros événement de recevoir le Paris Saint-Germain.
Ah oui.
C'est-à-dire que il y a un enjeu commercial qui est énorme. C'est-à-dire que tu vas vendre des loges, tu vas vendre des places. C'est le match que tout le monde veut voir à l'extérieur. Donc là, Rennes, ils ont 5 jours pour organiser le match de l'année. Alors que normalement, bah c'est un match que t'organises, que tu planifies, tu vas de la communication, tu vas vendre tes sièges, etc. Bien sûr que eux, on peut comprendre que même si j'entends ton idée, que en soi, bah il y a un problème de pelouse, bon on peut échanger. Mais recevoir le PSG, c'est pas recevoir Angers ou Toulouse. Tu reçois l'équipe championne d'Europe. Donc il y a une stratégie derrière. Et si tu peux faire deux fois le PSG, bah parce que le PSG malheureusement ils ont un problème avec leur pelouse, et bah t'essayes de le faire.
Mais moi, ça fait aussi partie du jeu. Alors après, je ne parle pas là d'ores et déjà de leur demande. De leur position, de se dire attendez,
ça devrait être clair.
Il n'est pas question qu'on joue le match retour.
Non, mais par contre, il y a un truc, Gilbert, avant de te laisser finir. Avant l'inversion, ça doit être clair cette histoire quand même. Avant l'inversion, ça doit être clair. Est-ce que c'est une inversion ou est-ce que c'est juste le PSG cherche un terrain de repli? On aurait dit que là, c'est pas clair.
Bah, oui,
c'est ça
pas,
qui est fou.
Bah, c'est pas clair parce que Rennes dit ce soir, nous, on est terrain de repli là.
Mais c'est fou,
l'histoire. Ça peut faire du sens.
Donc, après l'inversion, les mecs te disent mais attends, nous,
c'est vrai que Rennes peut être visé, c'est vrai.
Donc, moi, je te dis, Rennes, eux, on les met devant le fait accompli. En fait, ils sont bien sympas, parce qu'ils pourraient aussi dire,
Tapis vert.
Nous, ils peuvent pas jouer. Eh ben, on veut 3 points.
Voilà. Ouais. Enfin, tu démarres la saison
avec
3 points.
Bien sûr, tu peux le faire.
voilà.
Donc, c'est quand même fou que le Paris Saint-Germain n'ait pas d'autre option non plus que le parc. J'entends, Stade de France était visiblement pris. Jean-Bouin, c'était pas possible.
Jean-Bouin, ils auraient pas pu jouer le lundi ou le mardi à Jean-Bouin.
À l'époque, il y avait Beauvais, Guignon, tous ces stades-là.
Ils servent encore de stade.
Il a proposé le Créteil, ouais, ça aurait.
Alors, du coup. Possible. Les Rennais, ils se disent bon, c'est coup, ça, parce que ça a des conséquences sur les abonnements. Ça fait un match à domicile en plus. Et là, ce soir, Xavier Grimaud, qui évidemment est sur tous les coups, nous avons les infos qui sont quand même pas mal. Alors déjà, le club va faire le max pour que le stade soit rempli. Donc en 4 jours, c'est compliqué. Et donc pour ça, d'ores et déjà, le club ce soir dit il y aura des tarifs de l'ordre de 50% moins chers que la grille habituelle pour un Rennes PSG.
Ah oui, mais pour un Rennes PSG, pas forcément pour un match de Ligue 1.
Bah oui, pas forcément, parce que c'est
donc ce que j'appelle
un match de gala.
Non, mais ça, après, d'un autre côté.
Autre truc, parce qu'il y a aussi, il y a toujours des histoires dans l'histoire. La tribune du COP Rennais devait être suspendue pour le premier match à domicile. Sauf que, le bas de la tribune, sauf que le premier match à domicile, ça devait pas être celui-là.
Oh l'histoire.
Tu vois ?
Ah oui.
Ça devait pas être celui-là, ça devait être je sais lequel. Premier match à domicile, bon, je ne sais pas. Bon, enfin bref. Donc là, le PSG Rennes dit, attendez, il n'est pas question que du coup notre tribune elle soit suspendue là. Nous, on veut qu'elle soit vraiment suspendue pour le match qui était prévu, c'est-à-dire le premier match qui devait être,
ce qui en soi est normal.
Suis concerné par la décision.
Non, mais ce qui est normal, encore une fois, puisque les ventes, les places n'ont pas été vendues, les gens sont peut-être arrangés pour être ailleurs dans le stade.
C'est face au Mans.
C'était face au Mans, exactement.
La deuxième journée face au Mans.
Mais tu vois ce que je veux dire? Les gens qui devaient être dans cette tribune pour ce match face au Mans, ils se sont peut-être arrangés pour être ailleurs. Donc, ça, c'est normal. Et encore une fois, si Rennes, est-ce que Rennes va pas pousser le vice jusqu'à faire comme s'ils vont faire moins d'argent pour essayer de remplir le stade le plus rapidement
possible?
Parce que entre toi et moi, même à 5 jours, tu le remplis le stade pour le PSG.
Tous les jours.
Déjà, il y a la moitié de la Bretagne qui est remplie de Parisiens, soit en vacances, soit des Bretons qui travaillent à Paris. Donc, et puis Paris-Rennes, c'est 2h30 de voiture, donc
t'auras des spectateurs.
Et la Bretagne, qui est une grande terre de foot, je pense qu'il y a combien ? Il y a 35 000 Roisanne.
29 000, j'ai vu.
Il y a 30 000. Ouais. Je pense que les 30 000, tu les remplis. Les jours, même en deux jours, je pense que tu les remplis.
Après la sécurité, cette excuse, c'est comme ça.
Alors le PSG de son côté dit, on remercie le Stade Rennais, voilà, et il dit en parallèle, le PSG signale qu'ils ont déjà identifié des solutions pour remplacer la pelouse en vue du prochain match à domicile, qui sera un match contre Monaco le 4 septembre, la troisième journée de Ligue 1.
Même si là, ils disent en fait que la pelouse du Parc des Princes avec un champignon, faut savoir qu'un champignon ça peut arriver vraiment soit avec la canicule, mais ça peut aussi arriver si un mec il met le pied sur la pelouse, ses baskets elles ont passé je ne sais où, et voilà, c'est quand même assez fragile.
D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle avant de rentrer sur les terrains, il y a toujours un petit tapis un peu mouillé.
Ouais.
Avec du liquide justement pour désinfecter normalement les chaussures.
Ouais. Voilà. Ça c'est le cas aussi parce que ces nouvelles technologies, notamment des pelouses hybrides, font quand même des terrains de foot magnifiques, mais assez fragiles. Et c'est aussi le PSG ne voulait pas jouer à domicile, non pas parce que la pelouse était forcément impraticable. Parce que tu aurais pu peut-être jouer dessus, d'après ce que j'ai compris, mais c'était pour l'intégrité physique des joueurs. Mmh. C'est-à-dire que voilà, si le champignon, voilà, la pelouse, elle est pas aussi stable que d'habitude, parce que t'as
une blessure et tout.
Voilà. Et donc c'est aussi pour ça.
D'après ce que je peux dire. Une question. Enfin, vous qui avez passé votre vie sur des pelouses tondues, entretenues et tout. Tu dis que tu passes dans un petit bac là, mais il y a quoi comme liquide là-dedans?
Parce que j'explique.
Après, tu vas tacler. Tu vas te retrouver avec la bouche contre la pelouse
Moi, j'ai connu certains joueurs qui ont des infections en taclant sur un terrain. Des infections par rapport à tous les produits qui avaient été mis sur la pelouse. Et pour parler du fameux petit bac, c'est un espèce de tapis. Là, je peux te dire que les trois quarts des joueurs, d'ailleurs, marchent sur le côté parce que quand tu marches là-dedans, t'as les pieds complètement trempés. Donc, en fait, ça sert absolument à rien.
J'ai parlé pour le coup cet été, on était en stage en Bretagne avec Samor.
Je pensais pas qu'on ferait 16 minutes
pelouse. Non, mais c'est
l'actu de champignons.
C'est super intéressant. Et par exemple, nous, si on avait atteint la Ligue 3, ce qui est bien sûr loin d'être fait, mais aujourd'hui, maintenant, en Ligue 3, il faut des pelouses. Donc les synthétiques ne sont plus tolérés, à part la première année, une dérogation, etc. Donc nous, on avait une pelouse, on est passé en synthétique en 2018, on doit repasser en pelouse potentiellement si on atteint l'échelon supérieur un jour. Mais donc je me renseigne un peu comment ça se passe. Il faut savoir déjà qu'un terrain hybride, c'est 1 million d'euros. D'accord, donc c'est très cher. Et après, à l'entretien, c'est quasiment 200 000 euros par an. Et pourquoi ? Parce qu'il faut faire appel à des entreprises privées, puisque les jardiniers municipaux, en général maintenant en France, n'ont pas forcément la formation ou la technologie pour entretenir.
Former les jardiniers municipaux, c'est pas mieux ?
Ouais, mais attends, ouais, mais
ça coûtera peut-être moins cher. Que...
C'est dans l'idéal. Mais après, il y a des machines qui vont avec. Il y a tout un entretien. Tu vois ce que je veux dire ? Et donc le souci, c'est que ces pelouses-là. Elles doivent avoir énormément d'engrais puisqu'elles sont faites de pelouses naturelles mais sur un tapis de sable avec des fibres synthétiques, etc. Et donc il y a besoin de beaucoup plus d'engrais, il y a besoin de beaucoup plus de luminothérapie, et donc c'est quand même des technologies qui sont soi-disant faites pour avoir des beaux terrains mais qui écologiquement sont pas ouf.
Pour ça, non,
hein,
la Ligue elle t'aide pour ça si t'es promu comme ça, parce que c'est vrai que c'est un coût
pour le terrain. Non, pas pour le terrain. Après, il y a peut-être des fonds des trucs européens, des trucs comme ça, mais la FFF te donne des aides, mais je crois pas que c'est spécifiquement pour le terrain.
Il y a quelques années, le samedi matin sur RMC, il y avait votre jardin.
Ouais, voilà. Après.
Ouais. Après. On avait à l'époque un spécialiste. Okay. Tu aurais pu être invité. Voilà,
puis une autre émission qui s'appelle Coups humains.
Ouais. Mais moi, ça m'intéresse beaucoup.
Les maillots, la pelouse.
Moi, quand j'étais sur le terrain, la pelouse, la qualité, tout ça, c'était très important.
Tu dois avoir un jardin chez toi, il doit être incroyable.
Non, pour le coup, j'ai pas de jardin, je suis en appartement. Mais il y a aussi un truc, c'est que tu sais, souvent, on critique les footballeurs qui glissent. Ça, c'est un truc qui t'énerve. Souvent, tu dis ouais, comment ça se fait qu'ils ont glissé, etc. Et faut savoir que les terrains hybrides, comme c'est un tapis de sable en dessous, c'est des terrains qui sont en surface.
C'est à toi d'avoir les crampons qui.
Non, mais attends, je t'explique parce que c'est très technique. Comme c'est un tapis, donc un terrain qui est posé littéralement sur du sable, eh bien, c'est pour ça que les vissés, pour certains joueurs techniques, ils n'aiment pas parce que le vissé ne se plante pas au fond dans la terre. Puisque après la terre, très très vite, c'est du sable ou c'est de la fibre synthétique. Et donc, c'est pour ça que beaucoup jouent en moulé parce que c'est plus agréable. Mais forcément, comme ils sont abondamment arrosés, tu as tendance à glisser.
Moi d'ailleurs, je trouve que
je peux pas faire mieux là dans l'expertise.
Non, honnêtement, puisqu'on est sur
l'expertise terrain, le fameux réflexe qui avait été inventé à Barcelone de l'arrosage pour jouer plus vite et tout. Mmh. En fait, on surabuse de l'arrosage.
En fait,
non mais c'est utile, mais au bout d'un moment, En fait, trop d'arrosage.
Tu l'arrosage, ouais.
Non, mais
ouais,
te pourris le terrain et en fait, t'es pas productif, quoi. Des fois.
Ouais, après, en règle générale, quand ils arrosent en début de match, le terrain après redevient un peu plus sec, donc ça va mieux. Au bout de 10-15 minutes, le terrain est beaucoup plus sec. Maintenant, il y a un gros fléau chez le footballeur professionnel, c'est qu'en effet, ils veulent pas jouer en vissé parce que ils sont moins à l'aise dans la chaussure et qu'en règle générale, ils doivent mettre des moulées et ça glisse. Donc, j'entends ton analyse par rapport au terrain. C'est vrai qu'en effet, il y a
pas de... C'était un vrai défenseur central.
Non, vissé. Non, mais c'est vrai. Moi, ça me rendait dingue. Tous les mecs qui sortaient, là, avec leurs chaussures, là, leurs beaux crampons, là, avec les moulées.
Sans languette, pour pouvoir dire,
je joue en moulée.
Ce qui fait qu'après, tu te blesses dès que tu prends un coup.
Là, laisse tomber. C'était l'angoisse.
En plus, tout là-bas, il faisait 40 degrés, donc les terrains étaient secs très vite.
Ah ouais, bah nous, on jouait surtout en stable. Hein.
C'est bien. Dans un instant, on aura Fred au 32-16, supporter rennais, qui veut donner son avis sur cette affaire. Et c'est vrai que les supporters rennais peuvent être légitimement, comment dirais-je, un peu contrariés.
Non, mais c'est pas certain que c'est inversé.
C'est sûr, c'est certain, c'est officiel.
Non, mais c'est inversé ou est-ce que Rennes joue à domicile? Est-ce que c'est clair?
Dans un instant, je te lis le communiqué de la LFP.
Donc c'est inversé. Donc le match retour aura lieu au Parc.
Mais non, ça justement, la Ligue n'a pas précisé.
Okay. Donc pour l'instant, c'est pas inversé. Pour l'instant, il y a juste le match.
Il me fatigue. Je te parle pas du retour, je te parle de celui-là. Là.
Ok. Aller, inversé, ouais, mais quand on dit inversé, ça veut dire que le retour sera aussi inversé.
Vous comprenez juste pas, c'est tout, mais tout est bien clair.
Rennes, je reprends les mots, insiste sur le fait que ce n'est pas une inversion, mais un repli. Je te parle du match de dimanche. Là.
Oui, mais qu'est-ce que dit le communiqué de la Ligue?
Je te le trouve dans quelques instants et je te le lis. A tout de suite dans l'after.
RMC, jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
Il est 22h22, Kevin Diaz est là et Maxime Chano est là. J'ai le communiqué de presse de la Ligue. Je te le lis en intégralité, mon cher Kevin. Donc, informé le 17 août par le PSG de l'état de la pelouse du Parc des Princes, la LFP a procédé dès ce 19 août au matin à la visite d'un bureau d'études spécialisées et d'un délégué pour procéder à l'examen approfondi de l'aire de jeu. OK. À l'issue de cet examen, il a été constaté que l'état actuel de la pelouse ne permettait pas d'assurer la sécurité des joueurs.
Sécurité, d'accord.
Réunie ce 19 août, la commission des compétitions décide donc que la rencontre ne peut pas se tenir au Parc des Princes. Cette dernière, la commission, après avoir constaté l'impossibilité pour le PSG d'organiser ce match dans un stade de repli, a reçu de la part du Stade Rennais les garanties de pouvoir assurer l'organisation de la rencontre comptant pour la première journée ce dimanche. La commission des compétitions décide donc de procéder à l'inversion de la rencontre qui se tiendra au Roizen Park.
De la rencontre et pas des rencontres. Hein,
de la rencontre.
Voilà.
Important. Donc là,
la nuance.
Dans le communiqué de la Ligue, il parle d'inversion et pas de repli. Rennes dit non, c'est un repli. Déjà, voilà, là, ils ne sont pas d'accord.
Ouais. Non, mais pourquoi ils ne sont pas d'accord? Demain, il y a un club de Ligue 2 qui ne peut pas accueillir. Ça ne les arrange pas, je ne sais pas, ils ne peuvent pas. Il y a un champignon, il n'y a pas de champignon. L'intégrité physique des joueurs, ils vont aussi accepter la Ligue, l'inversion. Si c'est en Ligue 2, en Ligue 3, en National 1, en National 2.
Attends, après...
Non, mais tu te rends compte le truc de jurisprudence que ça peut être?
Là, dans le communiqué de la Ligue, on ne parle absolument pas du match retour. Hein.
Ouais, parce que si c'est l'inversion uniquement du match aller, mais Rennes est finalement gagnant.
C'est magnifique.
C'est magnifique pour eux.
Mais le PSG, ils disent quoi? Ils disent que c'est l'inversion totale.
Attends, voilà, pour l'instant, le PSG, ils disent rien. Le PSG, ils disent merci à Rennes parce qu'ils étaient quand même, je pense, assez emmerdés.
Oui, bah alors pourquoi? Peut-être il y a une polémique pour rien. Peut-être que le PSG va pas demander à ce que le match retour soit joué à domicile.
Tu crois que le PSG va accepter tranquillement de faire deux matchs à Rennes?
Bah, et s'ils ont pas de terrain,
ils vont te dire, et d'ailleurs à juste titre, ils vont te dire, mais l'équité sportive, elle est où?
Mais ils ont pas de terrain.
Elle est où l'équité sportive?
Mais l'équité sportive, c'est pas ça. Non, j'ai pas
raison. Non, je suis pas d'accord.
Je suis pas d'accord. Mais non, c'est pas ce qu'on a lu.
Ça serait honteux si le Paris Saint-Germain se positionnait comme ça.
Ah, ok.
Non, parce que c'est toi qui vont faire quoi?
Alors,
vous pensez franchement que le PSG va dire, ok, c'est bon, je joue deux fois à Rennes?
Bah oui. Bah, ça va, ils vont gagner le championnat quand même.
Sérieux?
Mais ils vont gagner le championnat quand même.
C'est bon. Tu penses qu'ils iraient contre cette décision?
Évidemment.
Mais non, pourquoi Gilbert
sur le match?
Et puis mais de toute façon la Ligue et la Fédé.
Mais la Ligue et la Fédé
ne peuvent pas se permettre, puisque sinon dans tous les championnats on va dire ouais, mais attends, le PSG ils ont pas pu recevoir, ils n'avaient pas de terrain de repli, ils ont juste inversé le match.
Nous
ça nous arrange.
Finalement,
moi je veux pas aller en Alsace en hiver. Je dis oh non, mais moi je vais jouer en Alsace en été, puis moi j'irai. Non, mais t'as compris quoi, il fait un peu plus froid qu'à Paris.
Tu vois ce qui est dingue, c'est que finalement.
Ah ouais.
C'est vrai.
Tu
es obligé de mettre deux manteaux.
Il fait froid, mais sec.
Ah ouais.
C'est beaucoup mieux qu'à Paris, où tu as une espèce d'humidité dégueulasse.
Pardon. Oui, il fait quand même plus froid.
Au moins, tu n'es pas mouillé. Ouais, c'est vrai.
Si.
Ce genre de stats.
Non, mais... si. Il y a beaucoup de terrains gelés là-bas.
Bon, ouais. Rennes, non, Fred est là.
Ce qui est scandaleux, pour juste pour finir ça, c'est que finalement, ils ont statué la décision sur le match aller sans déjà parler le match retour, en fait. C'est ça ce qui est scandaleux. Donc finalement, c'est vrai qu'il y a une espèce de, de zone grise, ou est-ce qu'on ne sait pas exactement ce qui va se passer sur le match retour?
Ben, pour l'instant, on ne sait pas. Fred est là. Salut, Fred.
Bonsoir, messieurs. Gilbert, Max, Kevin.
Toi, tu pourras aller à dimanche, du coup, au match?
Mais non, je ne pourrais pas y aller, comme beaucoup de Rennais, j'imagine.
T'es en vacances, t'es pas là, t'es pas.
Ouais, je suis en vacances, mais au-delà de ça, il y a quelque chose que je comprends pas. Déjà, la première des choses, c'est comment ça se fait qu'un club, l'un des plus grands clubs aujourd'hui en Europe, ne soit pas capable de trouver une solution, solution de repli, plutôt que de demander à l'adversaire de le recevoir chez lui. Je trouve ça.
C'est vrai. Bon, enfin, comme je l'ai expliqué, ils ont essayé le Stade de France,
oui,
ils ont essayé le Stade Jean-Moi.
Bon. Après Gilbert, pour reprendre l'expression de Max. Quand il parle Olympique de Marseille, on sait ce que ça vaut à la Ligue. C'est un petit peu le me pécho. Et en plus, que dicte le PSG? Généralement, le PSG a. C'est ça qui me gêne un peu. Après, si effectivement on reçoit au match retour, et ben il y aura pas de débat. Mais visiblement, c'est ce qui risque de pas se passer, je pense, parce que effectivement, le PSG va certainement demander les quitter dans ces deux matchs-là et pouvoir le jouer au Parc des Princes sur le match retour. Moi, je trouve pas ça normal. Après, de plus, nous mettre sur le fait accompli, il va falloir s'organiser, etc. Il faut que le club soit très bon en termes de communication, en termes de billetterie, pour pouvoir organiser le match dans les meilleures conditions. Mais au-delà de ça, c'est quand même un scandale. Je trouve que le PSG, c'est pas la première fois qu'ils nous font le coup sur des histoires un peu différentes. Rappelez-vous le match contre le Racing Club de Lens l'année dernière, etc. Il y a toujours des histoires avec le Paris Saint-Germain. Quand la Ligue dit quelque chose, dit quelque chose, la Ligue abdique, et ça, je trouve ça scandaleux. Bon, c'est pas une surprise. Maintenant, est-ce que...
Après, tu sais, c'est le lot c'est comme ça quand t'as un club dominant. Quand à l'époque, Lyon était le club dominant, ils obtenaient aussi des choses.
Comment il s'appelle notre... Fred. Moi, Fred, je te dis franchement que ça peut arriver, hein, que t'aies un problème avec ta pelouse, même si t'es le Parc des Princes, même si t'as Calderwood, t'as un champignon. S'ils demandent juste l'inversion, ils ont pas trouvé de terrain de repli en région parisienne ou à côté, ils préfèrent jouer le match à Rennes. Rennes, c'est pas très loin de Paris, ils vont à Rennes. Si derrière, Rennes est d'accord, Rennes organise le match, Rennes fait un match à moitié prix pour un match contre le PSG pour ses abonnés ou pour les Rennais, et qu'il y a les Parisiens qui peuvent se déplacer, et que le match retour, si la Ligue dit, par contre le match retour il sera quand même à Rennes. Bon voilà, si le PSG est d'accord, il n'y a pas de souci en fait. Pour l'instant, ils n'ont rien dit, ils n'ont pas dit qu'ils allaient demander.
Pour demander le match retour chez eux. Il n'y a pas scandale, finalement.
Vas-y, Fred.
Ouais, il n'y a pas scandale. Il n'y aura peut-être pas de débat, mais comme tu l'as dit tout à l'heure, Gilbert, à juste titre, je doute fortement que le PSG abdique et accepte de jouer le match retour au Royal Park. Et ça, je sais très bien comment ça va se passer. Et encore une fois, ça veut dire que le PSG dit quelque chose et la Ligue se soumet à ça.
Fred, là, on peut pas leur faire un procès d'intention parce
qu'on
sait pas. On ne sait pas encore ce qu'a demandé le PSG ou ce que décidera la Ligue. On verra si ça revient là.
C'est que les suppositions, mais comme on l'a déjà vu à plusieurs reprises sur d'autres histoires, on peut supposer que après voilà, c'est un débat qui pourra se poursuivre dans la saison. Mais en tout cas, effectivement, si le match retour se joue au Roazhon Park, il y aura les débats seront clos. Maintenant voilà, il va falloir organiser le match de la meilleure des manières pour que tout le monde puisse venir assister à, je pense, un des plus gros matchs de la saison, si ce n'était pas le plus gros. Et puis en espérant qu'on comprenne ces trois points là dimanche soir, bien sûr, ouais.
Alors, voilà pour l'affaire de ce match. J'aimerais quand même, puisque tu es là, qu'on dise un mot de Rennes, parce qu'aujourd'hui, ce qui s'est passé, ça c'était dans la journée avant cette affaire d'inversion, Rennes s'est entraîné en public, à son centre d'entraînement de la Pivardière. Et là, quelques petites surprises, puisque Francaise est arrivé avec un groupe de joueurs restreint. Et donc en fait il y a un petit loft qui s'est créé à Rennes avec des joueurs en instance de départ. Alors Brassier a été écarté, entraîné à part. Mbolo, Djaoui Cissé et Alidou Seydou. Entraînement à part. Alors Mbolo, lui, il pourrait partir soit en MLS, soit en Première Ligue, soit Atlanta, soit Ipswich. Donc il y a aussi le Gallois Jordan James qui devrait être prêté à Wolverhampton. Et puis alors il y a encore deux autres cas, c'est Blas et Fofana. Ludovic Blas et Fofana, eux, ils n'étaient pas là, mais parce qu'en fait, ils sont en reprise et qu'ils étaient légèrement blessés. Mais Ces deux-là, si jamais ils s'en allaient, ça dérangerait personne apparemment. Fofana, il coûte cher, il a un gros salaire et il est pas sûr de jouer parce qu'au milieu, t'as Rongier, Camara, Szymanski,
Thomasson,
Blas. Il a plus qu'un an de contrat, donc en gros, si le club
récupère
un peu d'argent, c'est maintenant.
Soit tu le renouvelles son contrat, soit en effet, t'essaies de le faire partir cet été. Ouais.
Donc pas mal de mouvements quand même à venir. Fred, tu dis quoi de la situation là?
Bah, de toute façon, voilà, les joueurs que tu as cités, Gilbert, c'est des joueurs qui ont de toute façon des certaines velléités de départ. Et on l'a vu dans les médias tout au long de l'été. C'est des joueurs qui, normalement, ne devraient pas rentrer dans les petits papiers de Francaise. Après, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Le mercato n'est pas encore terminé. Ils se sont renforcés plutôt correctement. Je trouve que la prépa a été également correcte, même si le dernier match a été accroché en Angleterre. Mais voilà, il n'y a pas longtemps, je suis passé sur votre antenne et on en avait discuté. Je reste toujours un peu méfiant quant au Calista Ray parce que je connais la situation du club et je sais assez qu'on est souvent exigeant et à juste titre avec ce club là. Cette année, voilà, il y a un recrutement qui a encore été fait, je pense, en toute intelligence. Maintenant, il va falloir montrer avec des résultats et accrocher une place européenne en fin de saison pour pouvoir jouer les premiers rôles. Évidemment, maintenant, oui, les joueurs que tu as cités, c'est des joueurs qui normalement feront plus partie des papiers de Francaise. Voilà, tu as cité Blas, ça fait déjà quelques temps qu'on n'en veut plus parce que Blas, c'est, on va pas refaire l'histoire, mais c'est un match sur deux, voire un match sur trois. Et après, voilà, Mbolo, c'est pareil, ça a été un joueur qui a eu ses stats, mais qui a manqué un peu de régularité. Et puis après, voilà, il y a d'autres joueurs aussi qui font plus partie des plans du club. Mais voilà, je pense que le recrutement a été fait en toute intelligence. Bien sûr, il y a des joueurs intelligents, il y a des joueurs, même tu parlais de Thomasson, c'est une, si ce n'est une des plus grosses valeurs du...
Après, c'est une opportunité de marché, Thomasson, oui, tu ne pouvais pas le laisser passer, c'est la même chose avec Issa Soumaré, c'est des joueurs qui arrivent libres. Là où je veux rebondir, c'est en fait, je trouve qu'ils ont été intelligents. Souvent, tu sais, sur des périodes de Coupe du Monde, sur des marchés, lorsque c'est une année de Coupe du Monde ou d'Euro, en règle générale, les clubs bougent assez tard parce que les clubs de Première Ligue bougent aussi assez tard. Donc forcément, les clubs de Ligue 1 sont un peu dépendants aussi des chaises musicales, entre guillemets. Rennes s'est positionné assez vite quand même. Hein. Ils sont positionnés assez vite avec un Issa Soumaré, avec un Dria Thomasson. J'ai parlé d'opportunités de marché et je trouve que c'était intelligent d'aller les chercher. Surtout que Thomasson, il revient et il va être intéressant dans l'entrejeu avec son pote Valentin Rougier, hein. Il me semble qu'ils sont ils sont connus, hein, tous les deux à Nantes, ouais, ils ont joué ensemble à Nantes. Pareil pour Charlie Cresswell, parce que si tu regardes un petit peu la fin de saison dernière, lorsque Francaise arrive et dis-moi si je me trompe ou pas, offensivement c'était pas mal, mais c'est vrai que défensivement c'était un peu friable, et le fait d'aller chercher un Charlie Cresswell qui est quand même reconnu en Ligue 1, qui était quand même demandé aussi par pas mal de clubs de Première Ligue, moi je trouve que c'est honorable d'avoir été le chercher. Je trouve leur recrutement en tout cas bien équilibré, vraiment bien équilibré. Et puis avec l'arrivée aussi de Mayenda, je pense qu'honnêtement, le Rennes, clairement pour moi, que Rennes ne peut plus se cacher. Hein.
Bien sûr,
Rennes ne peut plus se cacher. Après... j'ai entendu en plus récemment que Rennes est, après l'Olympique de Marseille, l'équipe qui a joué le plus d'années en Ligue 1, mais qui a fait uniquement un podium. Ce qui est quand même une anomalie. Hein. Ils ont les finances, ils ont un stade, ils ont un entraîneur qui est là maintenant sur sa deuxième saison, ils ont un effectif qui tient la route, ils ont des valeurs marchandes. Honnêtement, ils ont bien vendu avec Jérémy Jacquet qui a été vendu. Donc, je veux dire, ils sont pas forcément dans l'obligation de vendre d'un point de vue économique.
Non.
Rennes, je sais pas si c'est leur saison ou pas, mais ils peuvent plus se cacher, hein, vraiment.
Écoute, Max, je sais pas encore une fois si c'est la saison du Stade Rennais ou pas, mais on a trop souvent été imaginé Rennes en haut et on est trop souvent été déçus. Et voilà, et c'est normal qu'on soit exigeant avec un club comme celui-ci où effectivement tu l'as dit, il y a tout pour réussir. Je vois pas, il y a en plus, il y a très peu de pression parce que nous les supporters, on n'est pas Olympique de Marseille, on n'est pas au Paris Saint-Germain, on n'est pas Olympique Lyonnais, on est au Stade Rennais. Honnêtement, il y a tout pour faire une très bonne saison.
De toute façon, lutter pour le top 4, je pense que c'est l'objectif.
Oui.
Par contre, attention, hein, parce que ça fait Rennes va devoir se réhabituer à jouer deux voire trois matchs par semaine.
Bien sûr.
Et on l'a vu l'année dernière. Hein, on parle souvent du Racing Club de Lens. Racing Club de Lens a fait cette saison parce que justement, ils n'avaient qu'un match par semaine, qu'ils avaient un effectif qui était en mesure de pouvoir digérer justement le nombre de matchs sur toute une année. Là, ça va être différent avec Rennes. Hein, ça va être différent. Il va falloir qu'ils s'adaptent.
Bien sûr, après, je pense qu'il va falloir encore se renforcer un petit peu plus, notamment, tu l'as dit tout à l'heure, en défense, parce que on est quand même une équipe qui prend beaucoup de buts. Même en match de préparation, on a pris quand même pas mal de buts. Je pense qu'il va falloir trouver quelque chose. En tout cas, un point de contact pour pouvoir renforcer cette défense. Ça, je pense que c'est essentiel. Et puis après, effectivement, si Brelembolo quitte le navire, il va falloir aussi, pourquoi pas, trouver un joueur pour pallier à son départ. Mais voilà, moi, je suis assez confiant. Après, on verra. J'ai toujours quelques réserves parce que j'ai pas envie d'enflammer tout ça. Mais de toute façon, on doit, on doit être exigeant avec ce club-là parce qu'il y a tout pour faire une bonne saison.
Merci Fred.
Merci les amis.
Allez Fred.
Salut Fred, dans un instant, l'OM au programme, évidemment, car Bruno Genesio s'est exprimé ce matin, on va l'entendre. L'OM qui joue face à Strasbourg après-demain, là aussi, je porte à Marseille, on vous attend, parce que j'ai l'impression qu'à Marseille, on traverse l'été un peu dans le doute quand même, globalement. Ouais. Vu qu'il n'y a plus d'argent.
Un gros doute.
Il y a des départs, il n'y a pas trop d'arrivées, on en reparle dans quelques instants.
D'accord sur le débat,
dans quelques instants, le temps que Kevin a un avis sur Bruno Genesio. À tout de suite.
RMC, 22h, minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
Il est 22h37, Kevin Diaz est là, tout comme Maxime Chano, bien sûr. Bodo Glimt mène 3-0 aux Pays-Bas. Bon, c'est le match aller de barrage de Ligue des Champions. On va dire qu'ils prennent déjà une belle option, même si c'est pas fini. Il reste 10 grosses minutes à jouer. Et puis toujours 0-0 entre l'Atlético Madrid et Malaga. Là, il reste un peu plus de 20 minutes à jouer dans ce match de Liga. Juste avant l'OM, pour finir sur le PSG quand même, commission de discipline aujourd'hui, 3 matchs de suspension ferme pour Nuno Mendes, après le coup de coude au Trophée des Champions.
C'est logique.
Certains supporters parisiens disent c'est trop, il n'avait pas de casier, il n'avait jamais pris de rouge.
En tout cas, ouais, il a fait un peu preuve de frustration. On en parlait avec Daniel, disait que le carton rouge était sévère. Il a revu la vidéo.
Celui-là, s'il y a bien un rouge justifié dans ce match-là, c'est celui-là.
Clair et net,
il a été quand même bien provoqué, quand même.
Ah, ça va, Kevin, ça fait partie du jeu. C'est parce qu'il était en train de perdre et qu'il a eu la haine. Il ne s'est pas contrôlé. Rideau, voilà, c'est tout. Mais il
les mérite. Trois matchs, c'est beaucoup pour un trophée des champions.
Ouais, il se contrôlera la prochaine fois.
L'OM, les gars, on va écouter Bruno Genesio avant l'avis de Kevin, comme ça permettra de mieux comprendre Kevin. Écoutez d'abord Bruno Genesio qui parle de ce qu'il a dit sur Højbjerg. Rappelez-vous que après le match, il s'était un peu désolidarisé de ses dirigeants, parce que Højbjerg a donc refusé d'aller à Newcastle, on lui a enlevé le brassard. Et Genesio en avait parlé après le dernier match amical. Et là, il revient sur ce qu'il avait dit, écoutez.
Pas dit en désaccord, j'ai dit que je ne partageais pas ma décision. Pas tout à fait pareil. Et le message, il n'y en avait pas forcément à transmettre, ni à ma direction, ni à qui que ce soit. Mais c'était ce que j'avais envie d'exprimer, parce que c'est la vérité. Tout le monde a bien compris ce que j'avais envie de dire et pourquoi je l'ai dit à ce moment-là. Je comprends plein de choses, hein. Je suis entraîneur. Quand on est entraîneur, aujourd'hui, on n'a pas que ça. On a aussi la situation financière du club à prendre en compte, le contexte du club, il y a plein de choses qu'on doit prendre en compte. Mais on a aussi des convictions, des façons de fonctionner, j'allais dire qu'ils ne sont pas négociables, c'est peut-être un peu fort, mais ils doivent rester prioritaires.
Ouais. Alors, vous allez pouvoir réagir. Je vous fais écouter également Genesio sur Balerdi. Parce que Balerdi, il y a déjà les sifflets. On ne sait pas s'il va rester, de toute façon. Hein, parce que vous savez qu'à Marseille, globalement, tout le monde est à vendre. Et Genesio, en fait, son credo, c'est « je défends les joueurs ». Donc, il a défendu Højbjerg. Et là, il défend Balerdi. On écoute.
Je pense que Léo a beaucoup souffert. Mais on est là pour l'aider. J'échange avec lui régulièrement pour le soutenir. Vendredi, ça a été quand même un point assez fort et on a tous souffert, nous aussi, pour lui, parce qu'on est une équipe, on est un groupe, on vit ensemble. Moi, je les vois travailler, je vois les personnes qu'ils sont. On est là tous les jours, tous ensemble, et forcément, ça nous fait mal aussi. Mais ça fait aussi partie du métier, on le sait, on peut être exposé à ça. Maintenant, je pense aussi que vendredi, c'est le championnat, qu'il y aura nos groupes de supporters qui seront là pour nous soutenir et soutenir toute l'équipe.
Bon, Max, tu as donné ton avis, mais toutes ces déclarations de Genesio ont inspiré un avis de Kevin Diaz. Je demande donc le jingle Kevin Diaz.
Bah écoute, moi j'ai hésité, mais il faut quand même dire que moi j'ai.
Merci Kevin.
C'est encore une fois un montage. Je tiens à le dire.
Il n'y a jamais de montage ici.
Si.
C'est que du brut.
C'est un montage.
Bon alors, que t'inspire Genesio?
Écoute, moi j'ai écouté Bruno Genesio ce matin, je l'avais écouté aussi sur Pierre-Emile Højbjerg comme on vient de l'entendre. Moi je le trouve excellent. Moi je le trouve excellent dans sa communication. Alors oui, c'est du Genesio, c'est-à-dire que il y a pas le ton est un peu sobre comme ça, mais moi je le trouve très juste et je le trouve très honnête et très sincère quand il dit ce qu'il dit. Moi je pense que il a souffert un peu pour Balerdi et moi qui suis vraiment pas un fan du footballeur Balerdi, mais je sais que si j'étais aujourd'hui à l'OM ou si j'étais entraîneur adjoint, directeur sportif, bien sûr que ça me ferait pas plaisir qu'un joueur comme Balerdi qui même s'il a énormément de lacunes, semble tout donner sur un terrain, qu'il soit sifflé sur un match de préparation parce qu'il n'est pas encore parti, je trouve ça dur. Voilà, moi je trouve ça quand même dur. Moi je suis pas d'avis de façon à siffler les gens, à part quand vraiment ils font des dingueries. Et pour Pierre-Emile Højbjerg, pareil. Le gars, il a un contrat, il a le droit de choisir sa destination. Et c'est comme ça. Fallait pas lui donner, maintenant tu lui as donné. Et donc, lui retirer le brassard alors que ça semble être un gars exemplaire dans le vestiaire, non, pourquoi ? C'est pas parce que le gars n'a pas encore trouvé de club ou ne veut pas partir là où le club souhaite l'envoyer qu'il faut forcément lui retirer le brassard. Je comprends le club, mais je comprends aussi le joueur et je comprends surtout, puisque c'est la vie du soir, l'entraîneur qui, lui, doit ménager la chèvre et le chou en se disant, bon, bah moi, j'entends ma direction. Mais moi, je suis encore avec un gars qui pour l'instant est dans mon vestiaire et qui semble être professionnel et irréprochable, donc je comprends qu'il soit déçu qu'on lui enlève le brassard. Et ben, je trouve que la sincérité, c'est jamais un problème, surtout quand c'est dit de façon intelligente, de façon posée. Et je pense que c'est l'homme de la situation à l'OM cet été, parce que bien sûr il y a eu énormément de remous. J'ai entendu un Maxime Chanot très véhément sur le projet de l'OM sur les dernières semaines, sur les derniers jours, mais peut-être que Maxime, sur le fond, a raison, mais sur la forme, si je veux bien un capitaine du navire, et Dieu sait que je suis pas un grand fan de Genesio depuis qu'il est entraîneur, mais en tout cas, il fait preuve de beaucoup de maturité, ça c'est normal, il a l'expérience, et il fait preuve surtout d'un discours très cohérent, très sincère et très lucide sur la situation de l'OM. Et s'il y a bien une chose qu'il faut quand tu traverses la tempête, c'est la lucidité et le sang-froid.
Sur Twitter, sur notre messagerie... WhatsApp, on me dit le jingle Kevin était plus intéressant que son avis.
Et pourtant,
c'est un peu très bon avis. C'est du chambrage.
Je n'avais pas encore fini mon avis à ce moment-là.
Très bon avis, tout comme.
Est-ce que tu es d'accord ?
L'avis jardinage. Oui et non. Alors déjà, ça ressemble quand même à un sacré rétropédalage de la part de Genesio, parce que ne pas partager, pas forcément être en accord avec ce qui a été dit, pour moi, c'est quasiment la même chose. Alors j'entends ce que Kevin Diaz dit par rapport à. La situation avec Højbjerg, moi j'y reviendrai un peu plus tard. J'étais content moi de la nomination de Genesio. On va pas recontextualiser ce qui se passe actuellement à l'Olympique de Marseille. McCourt qui veut plus mettre d'argent, il faut dégraisser, il faut faire rentrer de l'argent dans les caisses, et donc d'aller chercher un Genesio qui normalement coûte un peu moins cher qu'un entraîneur étranger. Je trouvais que c'était une bonne option. Et puis là où moi j'étais vraiment heureux de voir Genesio arriver à l'Olympique de Marseille, j'avais le sentiment que justement ça allait contraster un petit peu avec ce qui s'est passé avec De Zerbi, un mec qui était sanguin, qui partait en cacahuète avec Benassia et Longaria à chaque fois, qui avait un petit remous sur et en dehors du terrain. Et donc Genesio et Lorenzi, parce que je mets en avant leur duo, je trouvais que c'était un bon choix en tout cas de la direction de les avoir nommés, parce que justement j'avais le sentiment qu'ils allaient ramener un peu de calme, un peu de stabilité dans un club qui en a besoin. Et puis finalement la semaine dernière, t'as Genesio qui pète un boulard en disant je suis pas d'accord avec ma direction, ce qu'ils ont fait sur Højbjerg. Ça arrive tous les mercatos, cette histoire où tu mets les joueurs dans un loft, que tu leur enlèves le brassard parce que tu as envie de les faire dégager. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Est-ce que Genesio n'aurait pas eu tout à gagner, justement, dans l'intérêt du club et dans l'intérêt du vestiaire, d'essayer de la faire intelligent et peut-être de la passer un petit peu, tu vois, un peu plus intelligent, un peu plus soft. Là, aujourd'hui, il se met dans une situation où j'ai le sentiment qu'il se remet encore contre sa direction et finalement, ça n'est
pas l'Olympique de Marseille. Mais non, il se remet pas contre sa direction,
sûr,
il explique.
Mais si tu es d'accord, on peut aussi se dire que là, il se met tous ses joueurs.
Mais bien sûr.
Voilà. Donc c'est pour ça que je vais revenir.
Non mais attends, c'est les joueurs qui vont lui faire gagner les matchs. C'est pas Franck McCourt. Hein.
T'as bien compris.
Non mais t'as bien compris que c'est pas Franck McCourt qui va faire gagner les matchs.
C'est l'institution qui doit être redorée. Ce n'est pas.
Mais non, mais il n'y a pas que l'institution.
Bien sûr, mais ça passe pas.
Mais l'institution, elle ne sera redorée. Il n'est pas en train de dire, oh les gars.
Mais il est en train de créer une cassure avec la direction.
Mais non. Mais non. Mais je suis pas du tout d'accord. Mais je suis pas du tout d'accord.
Donc c'est pour ça que je te disais que moi, Genesio, quand il arrive à l'Olympique de Marseille, je pensais vraiment que c'était un bon choix, parce que justement dans sa communication, il a été beaucoup plus calme. Beaucoup plus
mais
stable
calme,
que De Zerbi l'a fait.
Mais là, alors, il est calme.
Il y a un ton. Toi, tu parles du ton qui est calme. La manière dont il se positionne, la manière dont il se positionne contre sa direction, pour moi, je ne pense pas que c'était forcément nécessaire. Et c'est la raison pour laquelle, je l'ai dit un peu plus tôt, c'est le Muppet Show. Pourquoi c'est le Muppet
mais
Show
non, mais
parce que quand ça va un peu mieux sur le terrain, eh bien, c'est dans les bureaux que ça va
mais
moins
non,
bien.
Mais non, mais t'es bien au courant quand même, comme vient de le dire Gilbert, pourquoi il fait ça.
Mais j'ai bien compris pourquoi il fait
bah
ça.
Alors, tu penses qu'il ne faut pas le faire.
Mais non, mais t'aurais pu faire deux choses complètement différentes. Est-ce que t'es obligé de rendre médiatique?
Il n'a pas dit non plus, oh, ma direction, ils ont pété un câble.
Parce que justement, là, je t'ai dit, il vient vient de faire un rétropédalage parce qu'il s'est rendu compte. Mais
pas du tout.
Il vient de se justifier en disant finalement, c'est pas une histoire. Je ne partage pas. C'est. Il vient de le faire.
Mais non, je suis pas du tout d'accord.
Mais il a dit ce matin. C'est parce qu'il a dit.
Non, ce qu'il a dit ce matin. Ce qu'il a dit ce matin, c'est qu'il n'y a pas besoin de faire une Maxime Chano à non plus dire qu'il a été contre sa direction, que il a mis tout le club sans dessus dessous. Il a dit ce qu'il pense.
Voilà. C'est-à-dire, sauf que je à l'Olympique comprends. De Marseille, mais dans non, un club qui a besoin de stabilité, c'était non, maladroit non, de la part de Genesio. C'est tout. C'est ce que j'ai dit.
Non, je suis pas d'accord.
Et c'est la raison pour laquelle j'avais dit un peu plus tôt que Lorenzi et Genesio étaient un duo qui peut-être allait rapporter un petit peu de calme à l'Olympique de Marseille. Et ben, on s'est rendu compte que non. Et on s'est rendu compte que non.
Ça fait trop le club.
On s'est rendu compte que non, alors que la saison n'a pas encore commencé. Imaginons maintenant que l'Olympique de Marseille ne marche pas, ne fonctionne pas sur les 5-6 premiers matchs. Parce que attention, le calendrier, il est costaud. Strasbourg, Monaco, Paris FC, Stade Rennais, PSG. Et dans 5 matchs, Genesio, en plus, on l'a vu 2-3 fois.
Ils n'ont pas l'argent pour le virer.
On l'a vu 2-3 fois avec Olivier Létang l'année dernière, quand ça n'allait pas, notamment contre le Celta et compagnie, qu'il a pété un câble. Donc j'aime beaucoup Genesio, je l'ai dit. Je pense que sa nomination
est un bon choix. Sa sortie,
mais
pour
je n'ai
toi,
pas aimé sa sortie.
Elle est hérétique.
Je trouve que c'est maladroit et que ça porte préjudice à l'Olympique de Marseille, qui actuellement n'a pas besoin de ce genre
préjudice.
De sortie. Mais parce que ça fait parler. Est-ce que l'Olympique de Marseille a besoin de faire parler actuellement?
Mais quoi qu'il arrive, s'il n'avait pas dit, s'il avait.
N'en parle pas, ça serait passé sous le tapis, tu sais très bien. Comment que
non,
ça se
moi,
passe.
Moi, je trouve pas. Moi, je trouve
que Genesio apprend exactement comment ça fonctionne à l'Olympique de Marseille.
Non, moi, je trouve
attention,
pas. Il
attention,
a toujours été comme ça.
Attention, parce que Marseille n'a pas besoin de ce genre d'épisode, crois-moi.
Dans un instant, on aura Mickaël avec nous, supporter de l'OM. Il donnera son avis. Sachez que l'Atlético ouvert le score face à Malaga, c'est un but de Kangin Lee, qui vient de marquer pour l'Atlético face à Malaga. Allez, à tout de suite dans la
fin. Premier match de Liga, là.
RMC, jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
22h49, l'after est là jusqu'à minuit, bien sûr, avec Maxime Chano, avec Kevin Diaz. Ce soir, on débat de la situation marseillaise qui donc joue contre Strasbourg après-demain, après match de championnat. Kevin a donné son avis sur les débuts de Genesio, Max aussi. Et Mickaël nous rejoint au 32-16. Mickaël, bonsoir.
Bonsoir tout le monde.
Salut Mickaël.
Mickaël, t'es d'accord avec l'avis de Kevin là?
Alors,
qui estime que Genesio fait des bons débuts et que pour l'instant c'est très bien.
Moi j'étais au stade, contre Atlético.
T'as sifflé Balerdi.
Balerdi, c'est pas parce qu'il est pas parti qu'il a été sifflé, parce qu'au début il a pas été sifflé. C'est que sur le premier but, il fait n'importe quoi, il met le ralenti sur l'écran géant. On voit qu'il tombe parce qu'il veut la faute alors qu'il n'y a rien du tout et qu'on prend le but. Et à partir de là, il est pris en grippe et sur le second but, il est pris de vitesse et ça finit encore par un but. Et là, à partir de là, c'était terminé pour lui. Mais ça n'a rien à voir avec son non-départ de l'Olympique de Marseille.
Ouais, c'est juste parce qu'il était nul, quoi.
C'est l'exigence du public marseillais.
Il est passé au travers, quoi. Il est passé au travers et à Marseille, moi j'étais scandalisé. Je suis pas un grand fan de Balerdi. Mais dans la tribune, ça m'a pas plu et je considère que s'il faut, on va devoir faire la saison avec lui. Je pense qu'on a déjà assez de problèmes pour s'en créer d'autres. Donc le sifflet, j'ai trouvé ça limite.
Bon, sinon sur Genesio.
Ben Genesio, moi je suis fan dans la communication. J'entendais là tout à l'heure, là c'est pas bien ce qu'il a fait avec la direction. Il s'est mis les supporters dans la poche parce que tout le monde ne comprend pas pourquoi il a pas le brassard. Et Genesio, je pense qu'il est, très intelligent. C'est quelqu'un qui a de l'expérience. Et clairement, en faisant cette sortie, on est bien d'accord que c'est pas Lorenzi qui lui a retiré le brassard. C'est pas Genesio et c'est encore moins le président qui lui a retiré le brassard. Ça vient de plus haut. Et en fait, il s'est clairement mis les supporters dans la poche. En faisant cette sortie, parce que tout le monde est d'accord, ça fait pas de remous. Mais la polémique, c'est parce qu'on en parle là à la radio, mais pour moi, il n'y a pas de polémique. Ils lui ont enlevé le brassard, et peut-être qu'à la fin du mercato, s'il n'est pas parti et que Hochberg fait la saison, Hochberg récupérera le brassard. Aujourd'hui, quand on regarde ce qui se passe à l'OM, sur le mercato, sur tout ça, je pense que des polémiques, il peut y en avoir des bien plus grosses que on a enlevé le brassard à Hochberg sur un match amical contre.
Bien sûr, mais c'est une polémique supplémentaire que Genesio aurait peut-être pu éviter.
Toi, t'es plus contrarié par exemple la gestion globale du club et le non mercato que par si sur le brassard, quoi.
Si c'était vraiment une polémique, s'il y aurait vraiment une polémique et qu'il aurait été contre sa direction, comme il le dit, il aurait donné le brassard à Rosberg pour le match. Et là, on aurait fait une polémique. Il
est contre
sa direction, il fait n'importe quoi.
Tu peux pas aller contre ta direction quand tu viens d'arriver au club, c'est pas possible.
Bah, c'est ce que t'as dit, toi, qu'il a été contre sa direction. En l'occurrence, il l'a fait.
Il est contre sa direction s'il lui laissait le brassard.
Bah oui.
J'ai dit, c'est dans sa sortie qu'il est contre sa direction.
Mais non,
il suit finalement ce qu'on lui a demandé.
Il suit. Non, mais attends. Et quand t'es employé d'une entreprise, ouais, même si c'est un club de foot en difficulté, tu as quand même le droit de dire, moi, j'ai respecté ce que m'a demandé la direction. Par contre.
On est d'accord sur ça, sur ce débat. Je t'ai juste dit qu'il y avait peut-être d'autres moyens de le faire.
Notre auditeur vient de te dire que, bon, en tout cas, lui qui est Marseillais, lui, il comprend et il est plutôt derrière son coach.
Et moi je pense
que Genesio sort gagnant de cet épisode.
Bien sûr, mais je dis
parce que sa direction, il leur dit, bon les gars, moi je vous suis. Par contre les gars, va pas falloir me faire des délires comme ça tout le temps.
Mais voilà. Je ne dis pas l'inverse.
Ça c'est la première chose. Deuxième chose, que il se met les joueurs dans la poche en mode. Moi vous êtes là.
Peut-être comment ça fonctionne à l'Olympique de Marseille. Je suis pas convaincu pour le club, ça soit forcément utile.
Si, puisque utile ou pas, on verra. Ça seul l'avenir le dira. Mais en tout cas, en deuxième point, il vient de te dire que, comme disait Gilbert, il s'est mis les joueurs aussi dans la poche en mode, moi les gars, vous êtes là, vous êtes pas là. Moi tant que vous êtes irréprochable, je vais vous défendre. Vous êtes mes joueurs. Le jour où vous partez, on va se serrer la main et puis voilà, ce sera différent peut-être. Et en trois, il s'est mis aussi les supporters pas dans la poche, mais au moins en montrant son caractère et son tempérament. Et ben voilà, c'est peut-être pas Pep Genesio, mais en tout cas c'est un mec qui a du caractère et qui, même s'il respecte sa hiérarchie, est capable de dire ce qu'il pense.
Mickaël, t'attends quoi de la saison là?
C'est là où on voit par rapport à ce qu'on peut entendre à la radio ou à la télé. En tant que supporter, en fait, aujourd'hui, on peut rien attendre. Aujourd'hui, à part une bonne surprise et d'être dans les quatre,
merci,
ça sera une très bonne surprise. Aujourd'hui, Genesio, il a aucune pression et les joueurs qui sont là, qui ne devraient même pas être là, parce que si c'était, on va dire, une opération financière intéressante à l'OM, eh ben ils seraient déjà tous partis, on aurait déjà refait 15 transferts. Aujourd'hui, on veut de la stabilité, on veut enfin essayer d'être un minimum normal. Et moi, je suis désolé, j'ai regardé Bilbao, j'ai regardé Atlético Madrid, et ben j'ai vu du jeu, j'ai vu des gens courir, j'ai pas vu de fioritures.
Heureusement, c'est le début de la saison. J'entends cette analyse de, on va pas être trop dur avec les Marseillais, c'est compliqué, c'est une saison de transition, et pour autant vous sifflez Balerdi. C'est que finalement vous avez quand même une attente qui est légitime. Attention, pour un club comme l'Olympique de Marseille,
Balerdi, c'est l'historique.
Ah bah bon, c'est l'historique, mais il fait partie de l'effectif.
Il t'a expliqué, Mickaël, il fait un match pourri, Balerdi. Bon, il se fait siffler, voilà.
Donc ça va être la même chose si jamais l'Olympique de Marseille perd les matchs. J'entends ce que t'es en train de nous dire. Hein. Ça fait 2-3 semaines que nos auditeurs nous appellent en nous disant il n'y a pas de problème si l'Olympique de Marseille ça fonctionne pas, on va être patient. J'y crois pas un instant. Et c'est légitime parce que tu es dans un club comme l'Olympique de Marseille qui mérite d'être dans le top 4, voire le top 3 de la Ligue 1. Et donc, forcément, tu as ses attentes.
Tu peux ne pas y croire, mais pour moi, si tu n'y crois pas, c'est que, en fait, tu ne respectes pas, mais en fait, d'une certaine manière, tu respectes pas les supporters marseillais. Mais tu crois qu'ils les ont pas vécu les derniers mois? Mais les mecs, ils sont pas débiles, en fait. Ils ont vu ce qui s'est passé. Ils ont vu que le club, il est au bord du précipice. Qu'est-ce que tu veux bien sûr que les mecs, ils vont aller au stade Vélodrome pour voir une victoire. Ouais. Bien sûr qu'ils seront déçus s'ils ont une défaite. Mais crois pas qu'ils vont retourner la commanderie du mercato, ils ont une.
Je te dis que
même ils vont pas retourner le stade, ils sont quand même lucides, ils savent qu'ils n'auront sûrement pas l'effectif qu'ils avaient l'année dernière, ils savent qu'ils ont un entraîneur type Ligue 1, qui va pas faire le football de Bielsa, ça va pas être du football peut-être toujours champagne, ils veulent juste des gars, une équipe cohérente sur le terrain, des gars qui se tapent pour le maillot, pour le club, jusqu'à ce qu'ils sortent de la tempête.
Sûr, mais ça, c'est
tout ce qu'ils veulent.
Les supporters, bien sûr.
Après, s'ils peuvent finir 3e, ils vont signer, s'ils peuvent finir 5e, ils vont signer, si même s'ils finissent 7e, en faisant des bons coups, en tapant Lyon, ou en tapant Paris, j'en sais rien, en faisant un beau parcours en Coupe de France.
J'ai envie de demander à notre auditeur, si vous terminez 7e, vous êtes satisfait?
J'ai pas dit satisfait, j'ai dit qu'ils vont pas retourner le stade.
Mais non, mais par contre, soyons honnêtes un minimum. J'enlève Paris du championnat, d'accord? On enlève Paris, c'est hors norme. Mais aujourd'hui, quand on regarde la difficulté du football français, et quand je regarde le 11 que présente l'OM sur les deux derniers matchs, aujourd'hui, qui est plus armé
qui est plus en
forme? Lyon, par exemple.
Non, mais l'Olympique de Marseille, c'est vrai. Et tiens, en termes de raison,
oui, mais ce sera ce sera pas forcément ce 11-là, le 2 septembre.
Il risque d'avoir des changements. Mais quand tu regardes le 11 qui a été aligné par Genesio avant l'Atlético Madrid, bon, à part le cas Kondogbia qui joue défenseur central, je pense que sur toute une saison, c'est pas possible. Je suis d'accord avec toi. C'est une équipe qui peut terminer dans le top 3, dans le top 4 de la Ligue 1. Donc, de me dire que les supporters seraient OK si jamais la saison serait loupée, c'est-à-dire en terminant 5 ou 6e.
Non, mais ils disent toujours aussi ensuite, on verra le 2 septembre. Ils le disent ça tous. On verra le 2 septembre. Et le 2 septembre, si on a cet effectif, eh ben, OK, top 5, c'est minimum, peut-être, pour eux, malgré les finances, malgré ceci, malgré cela. Mais c'est toujours pareil. Si t'as cet effectif le 2 septembre, tu fais une bonne première partie de saison, il y a des mecs qui sont en valeur, et tu vends tes trois meilleurs joueurs, eh ben, peut-être que tu finiras pas cinquième ou troisième, mais tu finiras septième. Donc, en fait, les événements de la saison feront que les Marseillais devront à chaque fois ajuster en fonction de l'effectif en place.
Mais ça, c'est pareil pour tous les autres clubs du championnat. Là, on fait succès parce que c'est l'OM, mais c'est la vie du football français, c'est la vie de la Ligue 1. On est en train de, mais c'est exactement pareil pour tout le monde. Et qui nous dit qu'au 2 septembre, eh bien, on n'aura pas deux ou trois arrivées qui seront compensées, que ça sera fait intelligemment par Lorenzi. On fait que des suppositions. À l'heure où on parle à l'instant T, où Marseille, c'est une catastrophe économique, eh bien, aujourd'hui, on a un groupe où il y a des jeunes qui peuvent éclore, où il y a des joueurs qui sont confirmés, qui sont internationaux et qui sont au club. Aujourd'hui, si on
internationaux, peut... internationaux canadiens, ouais, bah, on reviendra sur les internationaux.
Ah ben, parlez-moi alors des autres internationaux qui sont dans les autres clubs de Ligue 1. C'est tellement facile, en fait, de sortir des phrases comme ça. Parce que Lens qui a fini second, qui a tapé le PSG jusqu'à trois journées de la fin.
Mais c'est différent, Lens, il n'avait pas de Coupe d'Europe. Mais attention, je pense qu'on est d'accord sur ce point-là. Pour moi, l'effectif actuel de l'Olympique de Marseille est en mesure de finir dans le top 3. Là, je pense qu'on est d'accord sur ça. Moi, là où j'ai envie de m'arrêter, c'est lorsque j'entends les auditeurs, les supporters marseillais qui me disent que c'est OK si la saison de l'OM sera loupé, en tout cas si on n'atteint pas ce top 3 parce que c'est une saison de transition. Je n'y crois pas un instant quand tu t'appelles l'Olympique de Marseille et quand tu as des attentes comme vous l'avez depuis, et c'est fort légitime.
Allez, merci Mickaël, et à très bientôt pour reparler de l'OM.
Salut Mickaël.
Et puis l'effectif, on verra, parce que peut-être que dans 10 jours ce sera plus du tout le même, hein, parce que voilà, c'est avant possible. Donc on pourra refaire le débat. Ouais. Dans un instant, on est de retour. Tiens, c'est fini, hein, les barrages de Ligue des Champions de ce soir. Donc Bodø/Glimt prend une bonne option. Il gagne 3-1 aux Pays-Bas donc ce soir à Nîmes.
3-1. Tout est possible alors.
3-1. Bon. Et puis le Celtic, Lins 3-0 aussi. Donc voilà, on va dire que ces deux clubs prennent une belle option pour la phase de poule.
Tu sais que j'aime beaucoup les reportages sur les insides sur les clubs. Mm-hmm. Mais là, je vois beaucoup de séquences là, sortir sur l'inside de la dernière saison de Guardiola à City. Je crois que c'est sur Amazon Prime, mais ça a l'air extraordinaire.
Il a l'air un peu soufflé, surtout.
Il faut voir ça. Parce
moi, j'ai regardé
discours...
Mourinho, là.
Et alors, Mourinho?
Bah, pas mal, mais j'étais un peu déçu, quand même. Ouais, en fait, je suis pas tant déçu de Mourinho, mais des choix éditoriaux qu'ils ont fait. Parce qu'en fait, ils se sont concentrés sur Chelsea, le Real première période. C'était quoi le troisième?
L'Inter.
Et en fait, il manque plein de trucs.
Bah oui. En fait, il a. On est d'accord.
Moi, j'aurais aimé voir plus de trucs de Porto, Barcelone.
Son retour à Manchester United.
Bah voilà, ouais, tout ça, c'était un peu.
Honnêtement, celui de Netflix sur Mourinho, il m'intéresse pas. Celui-là, là où on voit notamment la façon dont ils ont recruté Ryan Cherki, c'est très intéressant de voir les statistiques, pas les statistiques, se renseigner sur l'humain, etc. C'est tout à fait mon style de documentaire.
Il y a un passage où est-ce qu'il est à bout de souffle, hein, sur la fin, là, on sentait que...
Quand il dit « Vous m'avez rendu... triste ». Enfin, il emploie un mot très fort.
On sent que ça l'a tué.
Dans un instant, Monaco qui joue demain et le Mercato. Grosse page Mercato dans l'after à venir avec Fabrice Hawkins qui nous rejoint dans quelques minutes.
RMC jusqu'à minuit.
L'after foot.